11. Haute et petite noblesse. Priez, prince qui avait seigneurie, roi, duc, comte, baron plein de noblesse, gentilshomme avec chevalerie, car méchant Jean surmonte gentillesse. Charles d'Orléans. Le lendemain matin, escortés de quelques chiens, quatre cavaliers quittèrent le château de Vers. Montant de robustes ronces, ils étaient vêtus de façon simple et commode pour la chasse. Ils traversèrent la nécropole dans un battement de sabots, mais sans proférer une parole, sauf quand l'un d'eux rappelait un limier qui s'écartait. Ce fut seulement lorsque les arbres dissimulèrent presque les derniers caveaux que le plus jeune des chasseurs se mit à bavarder, et encore, soliloqua-t-il un bon moment. Méléagant de Bromel chevauchait en tête, accompagné par le chevalier de Vaumacel. Les deux hommes se tenaient quoi, sans toutefois afficher la même mine. Une sombre détermination durcissait le visage du jeune seigneur de Vers, plein de colère rentrée. Le chevalier aux épines, quant à lui, affichait un masque impavide. Quelques pas derrière eux, marchaient leurs deux écuyers, dans un attelage assez mal assorti. C'était l'élégant Rivalon qui avait rompu la glace et faisait seul les frais de la conversation, en débitant d'un air badin d'aimable banalité. À côté de lui, le vieux Nem hochait parfois la tête par politesse, mais ne lui accordait qu'une oreille distraite. Un pli soucieux barrait son front, tandis qu'il observait le dos des deux seigneurs. Les cavaliers n'étaient que légèrement armés. Les écuyers portaient de courts épieux à butoir, leur maître n'étant équipé que de dagues de chasse bien équilibrées. Méléagant de Vers avait toutefois accroché à son arçon une arbalète à crâne-quin. Le regard de Nem s'attardait parfois sur cette arme, plus grande et plus lourde que la petite arbalète de cavalerie dont le vétéran avait l'usage. Elle lui paraissait peu indiquée pour le tir à cheval. C'était du matériel de piétaille. Et bien qu'il n'en dît mot, l'expression de Nem témoignait assez de son opinion. Il jugeait incongru qu'un grand seigneur s'encombrât ainsi avec un équipement d'homme de pied. Étrange cours, du reste. Une fois que la cité des morts fut derrière la bande, les chiens s'ébrouèrent et, ragaillardis, se mirent à chercher les voies du gibier. Mais chaque fois qu'un limier relevait le sentiment d'une bête sauvage, Méléagan l'en détournait d'un ordre sec et le contraignait à suraller. Le seigneur de Vers ne semblait vouloir chasser que sur le chemin, comme si la proie qu'il avait choisi de forlancer se trouvait nécessairement sur la chaussée. Il ne s'en expliquait pas. Il scrutait obstinément la percée qu'ouvrait devant eux la route dans les feuillages. On aurait pu le croire mu par une idée fixe. C'était à se demander pourquoi il avait convié le sire de Vaumacel à cette partie de plaisir. De fait, lorsque le seigneur de Vers était arrivé au cours de la nuit à la tête d'une petite troupe de gens de guerre, il n'avait quasiment pas accordé d'attention à Edan de Vaumacel. Méléagan avait d'abord salué fort galamment son épouse, avant de l'embrasser avec une fougue toute chevaleresque. Après quoi, le prince avait échangé des étreintes cordiales avec les chevaliers de l'hôtel de la duchesse. Il s'était montré particulièrement heureux de retrouver Cohir de Thèves et avait pris des nouvelles de sa blessure avec la plus grande des prévenances. Il s'était aussi renseigné auprès de lui à propos des récents événements survenus dans le comté de Kimark. En revanche, dans un premier temps, il n'avait pas eu un regard pour le chevalier aux épines. La nuit était déjà avancée quand, après une collation prise dans la grande salle de l'hôtel noble, il avait décidé de rendre visite à sa mère. Dans la cour de Vers, malgré l'heure tardive, personne n'avait émis d'objection. Avant de monter dans les appartements d'Odéarde de Maginois, le prince avait demandé à ce que le chevalier Messchevet fut relevé par le sire de Maubrenas. À l'évidence, il manifestait davantage de confiance à ce vieux dignitaire de l'hôtel de la Duchesse qu'au nouveau venu. Le seigneur de Vert quittait déjà la grande salle, pressé de saluer sa mère, quand il s'était retourné pour la première fois vers Edan. « Au fait, aimez-vous la chasse, Vaumacel ?» lui avait-il demandé tout à trac. Et sans même attendre de réponse, il avait ajouté « Rejoignez-moi à la pointe du jour, je vous montrerai un coin giboyeux. » Il était sorti sur ces mots, accompagné de son épouse et de son écuyer. Nem, qui était alors occupé à tenser qu'elle, n'avait pas assisté à cette brève convocation, mais quand le chevalier l'avait averti de ses projets pour le lendemain matin, le vieil écuyer n'avait pas dissimulé son inquiétude. « Voilà d'étranges manières », avait-il relevé. « Inviter à une partie de chasse quelqu'un qu'on ne sait même pas donner la peine de saluer ? Il faudra vous tenir sur vos gardes, si vous m'en croyez. » Edan de Vaumacel avait haussé les épaules. « Le seigneur de Vert veut se ménager un tête-à-tête », avait-il répliqué. « Compte tenu des racontars qui ont couru sur mon compte et celui de sa mère, il est normal qu'il veuille m'entretenir seul à seul. C'est une attitude courtoise de sa part, au moins par égard à Madame la Duchesse. » Or, le matin venu, alors que les quatre cavaliers laissaient derrière eux la masse formidable des fortifications de Vert, le prince n'avait pas l'air pressé d'ouvrir la conversation. L'expression fermée, son jeune visage déjà marqué par les fatigues et les travaux guerriers, il gardait le silence et ne condescendait pas même un regard à son hôte. Derrière eux, le bavardage de Rivalon détendait légèrement l'atmosphère. L'écuyer évoquait à présent le merveilleux ménestrel qu'ils avaient accueilli au camp, peu avant la chute du château du Trèfle. Mais le plaisir que, selon son servant d'armes, le seigneur de Vert avait alors pris à deviser avec ce musicien aussi talentueux qu'étourdi, ne se lisait plus guère sur la mine sévère de Méléagant. Le soleil était déjà assez haut, au-dessus des tristes frondaisons de la forêt, quand soudain le prince tira sur la bride. « C'est ici, » décréta-t-il d'un air résolu. Ses trois compagnons s'arrêtèrent autour de lui. Rivalon interrompit aussitôt son verbiage, passant en un instant d'une humeur enjouée à un air grave. Les chiens, surpris par cette pause, poursuivirent sur quelques foulées avant de revenir sur leurs pas et furetèrent alentour sans grande conviction. « Nous y sommes !» affirma Méléagant de Vert sur un ton qui ne souffrait pas la contradiction.
« Je crois bien, oui, » confirma son écuyer d'une voix devenue sourde.
Edan et Nem inspectèrent les lieux. C'était un coin de chemin forestier tout à fait ordinaire, qui perçait à peu près en droite ligne des halliers embroussaillés. Un layon croisait leur voie de façon un peu oblique, en descendant d'un faible relief ombragé de taillis denses et de bosquets aux arbres en partie ébranchés. À rien dans le comportement de la meute qui bricolait de droite et de gauche ne laissait présager la présence de voies animales.
« Il y a du gibier à plumes dans ce bois, » dit le prince. « C'est un coin à faisan. »
En prononçant ces mots, il se tourna pour la première fois vers le chevalier aux épines et lui coula un étrange regard, scrutateur et presque hostile.
« Nos chiens ne devraient pas tarder à lever un ou deux coqs, » poursuivait-il. « Fretel ne nous déçoit jamais pour rabattre de beaux oiseaux vers nous. Vous êtes mon invité, Sir Edan, à vous l'honneur. »
Le sire de Vaumacel haussa un sourcil.
« C'est que je ne m'attendais point à une chasse au vol, » répondit-il. « Je ne dispose pas de l'équipement pour prendre vos faisans. »
« Si ce n'est que cela, » Un sourire tranchant éclaira pour la première fois le visage de Méléagant. S'emparant de sa grande arbalète à crâne-quin, il la tendit au chevalier. « Essayez donc ceci » intima-t-il. L'air un peu surpris, le chevalier prit l'arme des mains du prince. Il la soupesa, trouva visiblement le grand arc de fer encombrant à manier au-dessus de la tête de sa monture, cala malgré tout l'art brillé sur son épaule pour mettre en joue. « Comment tend-on le câble ? » demanda-t-il. « Je ne trouve pas le levier. »
« Il faut monter le cric pour la charger, » répondit Méléagant.
Décrochant la crémaillère et sa manivelle de son arçon, il l'étendit au sire de Vaumacel. Celui-ci, les deux mains prises par l'arme et son mécanisme, parut assez embarrassé.
« Il est impossible de tendre l'arc à cheval, »
observa-t-il.
« En effet. »
« Voyez-vous une objection à ce que je confie cette tâche à mon écuyer ? Il est plus familier de ces manipulations que je ne le suis. »
Le châtelain de verre donna son agrément d'un geste vague. Nem mit pied à terre pour recevoir l'engin des mains de son maître. Le vieux servant d'armes eut un moment d'hésitation. Il avait l'habitude des arbalètes à pied de biche, et il lui fallut quelques instants pour comprendre comment monter le crâne-quin. Une fois la manivelle en place, il posa l'arc au niveau du sol et, le pied à l'étrier, fit tourner la girelle pour tendre le câble.
« C'est une arme de piéton, » dit Edan de Vaumacel, formulant à haute voix ce que pensait son vieux compagnon. « Les arbalètes de cavalerie ne seraient-elles pas plus pratiques pour nos usages ?»
Le prince ne lui répondit point. Il contemplait d'un regard sombre, presque haineux, Nem, en train d'achever de bander l'arme. Lorsque le câble fut tendu à fond, le vétéran, qui faisait mine de ne pas avoir fait attention à cette expression farouche, décrocha la manivelle et la suspendit à sa ceinture.
« Avez-vous des traits, monseigneur ? »
demanda-t-il. Sans un mot, Méléagant lui céda un carquois. Une fois un carreau posé dans la rigole de l'arme, Nem l'offrit aux deux seigneurs en la tenant en position perpendiculaire afin que personne ne fût dans l'axe de tir.
« À vous l'honneur !»
répéta le seigneur de verre à l'adresse d'Edan. Le chevalier aux épines jeta un coup d'œil circulaire au sous-bois.
« Quel gibier fait rire ! »
s'enquit-il avec un rien d'étonnement. Le prince haussa une épaule.
« Visez un tronc !»
dit-il avec une feinte indifférence.
« Cela vous permettra de prendre l'arme en main !»
Par politesse, le sire de Vaumacel n'exprima pas davantage sa perplexité. Il descendit de cheval pour s'exécuter.
« Elle est chargée avec un vireton, pas un matras !»
murmura Nem en lui remettant l'arbalète. Il attirait ainsi l'attention du chevalier sur la nature du trait qui était conçu pour la guerre et non pour la chasse. Impassible, Edan récupéra l'arme. Peu habitué à tirer, il mit en joue un arbre à courte distance. Cette cible facile n'inspira ni plaisanterie, ni même un sourire chez ses compagnons. Au contraire, Méléagant et Rivalon le dévisageaient avec gravité. Lorsque la détente fut pressée, l'arc lâcha un craquement de branches sèches, moins fort que le claquement du carreau pénétrant dans l'écorce et l'aubier. Le seigneur de verre et son écuyer frémirent. Puis, sautant à terre, Méléagant accompagna son invité pour récupérer le projectile. Seul, le fût et son empennage purent être extraits. Le fer demeura profondément fiché dans le bois.
« Qu'en pensez-vous ? »
demanda le prince.
« C'est une arme mal commode, mais puissante. Avec ses traits de guerre, nous risquons d'abîmer le gibier. »
« Comme c'est bien dit, »
grimaça le seigneur de verre.
Il fixait le sire de Vaumacelle avec une expression singulière, où affleurait la colère rentrée et une forme de dérision. Stoïquement, le chevalier fit mine de n'en rien voir. Avec les marques de respect requis par la différence de rang, il présenta l'arbalète pour la restituer à son propriétaire. Méléagant la toisa sans esquisser un mouvement.
L'arme que vous tenez entre vos mains a servi à attenter au jour de madame ma mère,
révéla-t-il après un instant inconfortablement long. Cette fois, ni le chevalier ni son écuyer ne purent dissimuler leur surprise.
« Je vous demande pardon !»
s'étrangla le sire de Vaumacelle.
« Je tenais à ce que vous l'essayiez !»
poursuivit froidement le prince.
« Ainsi, avez-vous pu mesurer son pouvoir meurtrier sur les lieux mêmes où madame la duchesse a été frappée ?»
Edan considéra avec dégoût l'instrument que, de façon très embarrassante, on lui laissait sur les bras.
D'où le trait de guerre,
déduisit-il.
En effet, on a abattu ma mère à côté de moi avec un vireton conçu pour transpercer les armures.
Abaissant l'arme sans toutefois la lâcher, le chevalier secoua la tête d'un air désolé.
« J'en suis navré pour son Altesse, et pour vous, monseigneur. »«
Vous êtes bien obligeant, »
lui fut-il répondu sur un ton mordant.
« Néanmoins, je ne cerne pas très bien les raisons qui vous ont poussé à me remettre cette arme. Me mettez-vous à l'épreuve. Vous me feriez injure en croyant que je suis compromis. »
Une ombre de dédain parcourut l'expression de Méléagan.
Si je vous avais cru coupable, vous seriez déjà mort, Vaumacelle.
Avec sécheresse, il ajouta,
vous n'en êtes pas moins responsable. Responsable de tout. Les calomnies, le procès, votre défection, l'emprisonnement de ma mère, ma disgrâce. Les querelles dans la famille ducale, notre faiblesse face à l'invasion.
C'est m'accorder beaucoup de mérite, répondit Edan avec une politesse glacée.
Il semble que ce soit une opinion plutôt répandue. Ne vous a-t-elle pas valu ce méchant coup de dague à l'Indinas?
D'un geste, le prince ordonna à Rivalon de débarrasser le chevalier de son arme. Le sire de Vaumacelle la céda, sans dissimuler son soulagement.
On a beaucoup médit sur mon compte,
se justifia-t-il. Et on a ensuite retourné ses persiflages contre madame la duchesse.
Je suis revenu pour rétablir mon honneur et le sien.
Vous aurez fort à faire. Même les gens les mieux disposés pensent qu'il n'y a pas de fumée sans feu.
Êtes-vous de ces gens bien disposés, monseigneur?
Je n'ai aucune sympathie pour vous, Vaumacelle. Mais je ne suis pas libre de vous incriminer sans incriminer ma mère. N'est-ce pas singulier? La dame que vous n'avez pas su défendre continue à vous protéger parce qu'elle n'a d'autre choix pour sauver sa réputation.
Jamais je n'ai rien fait qui put attenter à son honneur.
Qui vous parle de cela? Ayez plus d'à-propos. J'évoquais sa réputation.
Lançant un regard noir au chevalier, le prince énonça de façon incisive.
Vous ne vous en souvenez probablement pas car j'étais encore très jeune, mais je me trouvais à Gaudemas. J'ai assisté au tournoi. Je vous y ai vu. « Comment oseriez-vous me soutenir que vous n'avez rien fait qui pût compromettre ma mère ?»«
Sur mon honneur, je n'ai rien fait qui ait outrepassé la décence ou ma condition. »«
Votre condition ?» ricana Méléagan. « Ah oui, il faudra que nous en reparlions. »
Sautant à une autre idée, le prince désigna le sentier qui croisait un peu en biais le chemin principal. C'est depuis cette percée que l'assassin a commis son forfait, expliqua-t-il. Seul le chevalier de Maubrenas a entrevu une ombre qui disparaissait dans le bas-côté. Nous lui avons donné la chasse, hélas en vain. Le scélérat nous a glissé entre les doigts.
Les deux hommes contemplèrent d'un air grave le faux fuyant qui se perdait dans la ramée, comme si le fantôme du tueur avait encore pu s'y tapir. Au bout d'un instant, le sire de Vaumacel fronça les sourcils.
« Si l'arbalétrier vous a échappé, s'étonna-t-il. Comment avez-vous récupéré son arme? L'a-t-il abandonnée dans sa fuite?
C'est possible. Nous n'en sommes pas certains. »
Comme Edan, déconcerté par cette réponse, jetait un regard interrogatif, le seigneur de Verre s'en expliqua.
« Ici, nous n'avons rien trouvé, » dit-il. « Mais plus tard, nous avons organisé une grande battue avec la meute du château. Nous avons débusqué quelques maraudeurs ou romans que nous avons tués ou capturés. L'un d'eux portait cette arbalète. J'ai fait donner la question aux prisonniers. Mais nous n'en avons pas appris grand-chose. Ils refusaient de parler, sinon pour nier que l'arme leur appartenait. Ils prétendaient qu'ils venaient de la trouver près de leur bivouac, juste avant que nous ne les eussions traqués.
Méléagant haussa les épaules.
Il n'y avait rien à tirer de ces brutes. Je les ai fait pendre avec ceux qui étaient déjà morts, pour l'exemple. Je crois toutefois que ces chiens disaient la vérité quand ils racontaient qu'ils venaient de trouver cette arme. Les clans n'utilisent pas d'arbalète. Celle-ci, en outre, est très élaborée. En avez-vous reconnu la facture?
Je ne suis pas des plus férus en archerie.
Elle est de fabrication tchoudalienne. C'est une arme de phalangiste.
Edan hocha la tête d'un air entendu.
Mais comment s'est-elle retrouvée en possession de rôdeurs ou romans?
Demanda-t-il.
L'assassin a tenté de nous donner le change en abandonnant l'arme du crime à côté du bivouac des barbares. De fait, en nous attaquant à ces pillards, nous lui avons donné l'opportunité de s'échapper. Mais ni le tir en traître, ni l'arbalète ne ressemblent aux usages des clans.
Adressant un coup d'œil pénétrant au chevalier, le prince observa.
Le chevalier du Havne m'a raconté les circonstances dans lesquelles vous avez été poignardé à Lindinas. D'après lui, le coutilier qui vous a frappé portait une demi-armure tchoudalienne.
Je n'y ai pas prêté attention dans la confusion de la mêlée. Mais, d'après mon écuyer, qui a engagé mon agresseur, c'était en effet le cas. En outre, un des ambassadeurs de la République de Tchoudalia participait au tournoi, avec plusieurs gens de pied. En sorte que, si je vous suis bien, vous pensez que les deux attentats sont liés.
Cela saute aux yeux. Ma mère libérée et votre dessein de laver sa réputation gênent dans l'entourage de la putain tchoudalienne.
C'est un triste honneur que d'avoir été frappé par la même main criminelle que son Altesse Ducale. Soyez assuré, monseigneur, que cela ne fait que renforcer mon intention de venger l'honneur de madame votre mère.
Je m'y attendais, Vaumacel. C'est ce qui vous rend utile.
Mon épée est entièrement acquise à la cause de son Altesse Odéarde.
Le seigneur de Verre ouvrit légèrement les bras dans un geste d'invite, teinté d'ironie.
« Eh bien, dans ce cas, qu'attendez-vous » s'étonna-t-il. « Nous sommes là, à flâner dans les bois et à jauger nos intentions pendant que les clans s'enfoncent dans le duché et que mes troupes piétinent, privées des renforts de qui marquent. Dissipez nos incertitudes. Délivrez donc le message que nous adresse le comte Anguzel. Ce sera un bon début. »
Tout en soutenant le regard de Méléagant, le chevalier répondit uniment «
Monseigneur Anguzel m'a chargé d'un message pour madame Odéarde. Sans vouloir vous offenser, monseigneur,
vous en donner la primeur serait manquer aux volontés du comte comme à la préséance qu'exerce la duchesse. » Le prince esquissa un sourire en coin.
« Vous voici très à cheval sur les usages, » persifla-t-il. « Ma pauvre mère étant momentanément trop souffrante pour traiter ses affaires, vous devrez bien vous rabattre sur moi.
Je suis navré de constater que son Altesse est encore si faible. Je suis tout prêt à vous considérer comme son lieutenant et à vous communiquer le message du comte. Un mot de madame la duchesse suffira. »
Vous êtes bien insistant, Vaumacelle. On pourrait finir par se demander ce qui vous pousse si impérieusement à la revoir. Or, voilà précisément une raison pour laquelle je n'y suis pas favorable.
Qu'y aurait-il d'inconvenant à une audience publique?
Ma mère n'est pas en état d'accéder à cette requête. Du reste, croyez-vous vraiment que c'est elle qui exerce le pouvoir? Qu'elle commande à nos troupes? Sans moi, elle serait toujours captive à mon doigt.
Vous êtes son capitaine, mais votre légitimité découle de son autorité.
Non, Vaumacelle. J'ai la légitimité du sang. Quand mon félon de père ne sera plus, quand Lanval aura fait la démonstration de son incapacité à gouverner, je serai le duc. Moi, et non ma mère, que j'aurais simplement restaurée dans sa dignité de duchesse douairière.
Duc, pour l'heure, vous ne l'êtes point. Et vous ne le serez un jour que si vous rétablissez la dignité de son Altesse Odéarde. Sans quoi, vous risquez fort d'être écarté de la succession. Aujourd'hui, c'est à madame la duchesse, et non à vous, que je dois rendre des comptes. À moins que... Naturellement, madame Odéarde ne me confirme que vous la représentez en tout. »
Les deux hommes se toisèrent un instant avec une détermination qui frisait l'animosité. Et puis, Méléagant se détendit et partit d'un rire brusque.
« Ah, chevalier, vous n'avez pas changé depuis Gaudemas !»
s'écria-t-il avec une joie vindicative. Il lui frappa l'épaule de la paume avec une familiarité un peu brutale.
« 10 ans plus tard, je vous retrouve tel qu'en vous-même, » poursuivit-il. « Ce que vous m'aviez exaspéré à l'époque. J'avais déjà rang d'écuyer, mais j'étais trop jeune pour entrer en lice. Je n'avais pu qu'assister à tous vos exploits, vous, le champion ennemi, qui aviez tenu tête aux troupes bromaloises sur la brèche et qui osait pourtant porter la manche de la duchesse de Bromel. Vous vous représenterez sans peine combien il est cuisant pour un fils de voir un étranger faire une cour publique à sa mère sous les acclamations de la haute société. J'étais sur des charbons ardents. »
Il s'agissait juste d'un geste de courtoisie. Il n'entrait nullement dans mes intentions d'offenser qui que ce soit.
En vérité, pas même les adversaires de haut rang que vous avez impitoyablement mis à terre.
Tel est le jeu des armes. Il n'y a nul outrage dans une victoire loyale.
Vous ne m'en voudrez pas, Vaumacelle, de vous dire que vous manquez de largeur de vue. Votre discours est étroitement borné par le code chevaleresque. Vous négligez d'envisager les mœurs de la bonne société dans leur ensemble. S'il est noble d'être chevalier, il s'en faut de beaucoup que la noblesse ne soit régie que par la chevalerie.
Détrompez-vous, monseigneur. J'en suis conscient. Sans les bassesses et les félonies commises par certains grands, l'ordre de chevalerie n'aurait guère d'usage.
Méléagant le considéra avec plus d'attention.
Puisque vous n'étiez pas aveuglé par vos valeurs, vous étiez donc conscient des médisances que pourraient provoquer vos prouesses sous les couleurs de ma mère.
C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai accepté de combattre au pied contre le connétable. Ma victoire aurait été trop compromettante pour la duchesse.
Tiens donc. Il y avait donc un fond de réflexion à votre obligeance. L'enfant que j'étais encore n'y a vu que du feu. J'ai d'abord cru que Traval vous avait surpassé par la seule force de ses armes, et je m'en suis senti vengé.
Ce n'est que dans un second temps, quand vous avez reçu le prix de courtoisie, que j'ai été confondu par ce que j'ai pris pour un scandaleux hommage à ma mère. Que voulez-vous ? J'étais encore si ingénu. Aurais-je eu 2 ou 3 ans de plus ? Je crois que je serais parti bille en tête vous jeter le gant. Et pourtant, dans ma candeur, j'avais vu juste. Vos belles manières ont été à l'origine de tout le mal qui a suivi.
M'imputez-vous la responsabilité des faux témoignages qu'on a portés contre moi ?
Évidemment. En sortant du rang, vous avez concentré trop d'attention sur votre personne. À travers vous, il devenait facile d'atteindre ma mère.
Le prince grimaça un sourire.
Pour vous parler en toute franchise, je vous ai haï, Vaumacel. Si je vous avais tenu au lendemain de la sentence, quand ma mère a été condamnée, après que vous lui eussiez fait défaut, ma foi, je crains que j'aurais agi avec vous de façon très peu chevaleresque. Mais ensuite, en mûrissant mes plans pour délivrer la duchesse, j'ai pris le temps de la réflexion. J'y ai vu plus clair, et j'ai commencé à concevoir tout le parti que je pourrais tirer de vous.
Brisant une ramille qui poussait en travers du chemin, Méléagant entreprit d'en arracher machinalement les feuilles.
Entre nous, bien que vous soyez un bouc émissaire commode, je ne puis rejeter sur vous l'ensemble de la faute, poursuivit-il. J'ai fait moi aussi des folies en passant par-dessus la vie de mes parents quand j'ai épousé Madame Azalaïs. Ma mère a beaucoup œuvré à me réconcilier avec mon père. Or, cela lui a nui autant que cela m'a profité. C'est à cette époque, des années après le tournoi de Gaudemas, que les calomnies ont commencé à courir et que mon père, au lieu d'y mettre un terme, leur a prêté l'oreille.
Ayant réduit sa brindille en menus morceaux, le seigneur de Verre finit par la jeter avec colère.
« Vous voyez, gronda-t-il, malgré nos différends, je vous parle à cœur ouvert. Si je ne puis guère m'appuyer sur votre conseil, du moins je peux me fier à votre sens de l'honneur. Après tout, vous êtes de vieille race, n'est-ce pas ? Petite noblesse, mais ancienne lignée. Votre lignage remonte à l'époque du royaume de Léomance.
En effet, monseigneur, je suis flatté d'apprendre que vous le savez.
Que voulez-vous ? Il était difficile de négliger votre cas. Votre blason, en tout cas, figure dans de vieux armoriaux royaux, mais il a changé, me semble-t-il. Vous n'en avez conservé qu'une poignée d'épines. À l'origine, les couleurs de votre maison étaient d'argent à la rose pointée et tigée. Pourquoi avoir abandonné la fleur ?
Peut-être fanent-elles plus vite que les épines.
N'est-ce pas lié à la perte de votre seigneurie ? Voilà longtemps que votre famille a été dépossédée de ses terres, n'est-ce pas ? L'alleu de Vaumacel se situait dans la Londe Dalle, au pied des monts Hautetain, sur la rive gauche de la Claye. Or, voilà plus d'un siècle que les clans ont conquis cette région, après que la guerre des grands vassaux eut affaibli nos forces.
Hélas, monseigneur.
La guerre que préparait mon père aurait pu vous donner l'espoir de recouvrer votre fief.
Au vu du litige que j'ai avec le duc, cela paraît bien chimérique.
Mais Léagan ne put qu'en convenir, avec un rictus sarcastique.
Mais pourquoi ne pas avoir prêté hommage à Kimark ? S'étonna-t-il. Non seulement vous avez combattu pour Anguzel, mais vous lui avez rendu un fier service à Mormark. Cela méritait bien une terre ou un office.
Il y a 10 ans, Monseigneur Anguzel m'a fait une proposition généreuse. Je l'ai déclinée.
Pour quelle raison ? Vous ne pouvez invoquer la loyauté à Bromel.
J'ai déjà d'autres engagements.
Vraiment ? Auprès de quel suzerain, je vous prie ?
Il ne vous a pas échappé que j'ai servi à terme dans l'ordre du sacre. Il m'est également arrivé de combattre pour le comte de Brockmail, comme je l'ai fait pour celui de Kimark. Mais je suis surtout engagé auprès d'une dame dont je suis le chevalier servant et dont la courtoisie m'interdit de donner le nom.
Le prince se campa fermement devant le chevalier.
Une autre dame que ma mère, je gage, s'enquit-il d'un air menaçant.
Sans quoi je ne saurais soutenir qu'on a calomnié Madame la Duchesse.
Repartit Edan sans se démonter. Un agacement amusé se peignit sur les traits du seigneur de Verre.
Décidément, vos macelles, je vous trouve bien ladre en confidence, reprocha-t-il.
Il est des confidences qui nuisent à la confiance.
Votre sens de l'honneur est raide, comme la justice. Fort bien. Je m'en accommoderai. De toute façon, je n'aurai pas besoin de vous forcer la main. J'obtiendrai facilement de ce brave Thèves le message d'Anguzel.
Si je puis me permettre, monseigneur, votre façon de contourner les usages me renforce dans mes réserves.
En agissant ainsi, vous confirmez que vous n'êtes pas prêt à recevoir les propositions du comte.
C'est pourquoi je me permets d'insister respectueusement. Dès qu'elle sera en mesure de m'entendre, je souhaiterais parler à Madame la Duchesse.
Ce que je suis prêt à recevoir, c'est à moi seul d'en juger,
rétorqua abruptement le prince. Toujours partagé entre le rire et la colère, il s'emporta.
Ce que vous êtes insolent, vos macelles. Vous m'avez parfaitement compris. Je n'ai fait mine de m'intéresser à vous que pour vous rappeler qui vous êtes. Un petit bachelier sans terre, presque un soudoyer, qui offre certes ses services au lieu de les louer, mais qui ne soutient ce rang modeste que parce qu'on le récompense malgré tout. Or, loin d'en rougir, vous avez quand même le front de me tenir tête et l'outrecuidance de me faire la leçon.
Une parole sans détour est garantie de loyauté.
Jolie parure pour habiller l'impertinence. Décidément, vous n'avez pas changé depuis Godemas, toujours aussi fier et persuadé de votre supériorité morale. Champion inébranlable et déplorable courtisan. Or, plus vous m'indisposez, plus je me félicite de vous avoir recruté. Car c'est moi, bien sûr, qui ai conseillé à mon frère de vous inviter à rejoindre son conroi pour le tournoi de l'immortel. À votre façon, vous êtes un homme précieux, vos macelles. Vous vous montrez si fermement insupportable que vous formez un appôt irrésistible pour les partisans de mon père.
Je suis heureux de constater que vous me parlez vous-même sans détour, monseigneur.
En plus, vous faites de l'esprit. Mais raillez tant que vous voudrez, j'ai été plus sincère avec vous que vous ne l'avez été avec moi. Vous aussi, vous savez parler à mots couverts. Si vous refusez de me communiquer les intentions de Kimark, c'est parce qu'elles me déplairont. Je les devine. D'une façon ou d'une autre, Anguzel, tenu par la captivité de son fils et la position avancée de son comté, n'a d'autre choix que la réconciliation avec mon père. Car je n'ai pas les forces suffisantes pour garantir sa sécurité contre les Ouromans. Que ce soit ma mère ou moi, nous répondrons de la même façon à ces propositions. Et vous? Qu'allez-vous faire, vos macelles? Si la duchesse décline les offres de Kimark, quelle partie suivrez-vous?
Celui de Madame la Duchesse, quel qu'il soit. Je suis revenu à cette seule fin.
À la bonne heure! Je n'aurais pas eu complètement tort de vous ménager.
Une rumeur vint les distraire de leur conversation. Quelque part, dans les tristes sous-bois de cette contrée, roulait sourdement l'écho d'un piétinement et quelques grincements des cieux. Les écuyers avaient les premiers tendu l'oreille, Nem, d'un air vigilant, et Rivalon de façon plus indolente.
« Ah !» se réjouit le seigneur de Verre. « Il est temps de se remettre en selle !»
Toute tension dissipée, il rejoignit sa monture et mit le pied à l'étrier. La rumeur se précisait au fond des futaies, tranquille mais de plus en plus sonore. Des éclats de voix s'y mêlaient parfois à des meuglements. Une fois à cheval, le sire de Vaumacelle porta le regard vers le fond de la trouée que la route ouvrait à travers bois.
« Serions-nous à un rendez-vous de chasse, monseigneur ? »
S'enquit-il.
Vous en avez raté l'essentiel, Vaumacel, répondit le prince d'un air narquois. Je crains que la bête ne soit déjà servie et que nous n'ayons taillé les menus droits.
Enfin, du mouvement apparut au fond de la percée. En tête marchait une petite troupe de gens de pied casqués et hérissés de lances. Derrière elle ballottaient de grands charrois chargés de fourrage et de sacs de grains. Des bêtes à cornes suivaient, aiguillonnées par des sergents cuirassés, comiquement convertis en pâtres.
« Voici de quoi garnir notre carnier !»
se félicita Méléagant. Derrière les deux seigneurs, Nem se détendit imperceptiblement. Le vieil écuyer avait redouté un coup fourré du jeune Brommel. Mais c'était un long convoi de ravitaillement qui remontait la route.
« Acceptons la contribution du trèfle à notre cause !» s'esclaffa Méléagant en désignant le butin de ses récents pillages.